Womanop, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Life Radio 107.7.
Dans un monde en constante évolution et de plus en plus incertain, se contenter d'une seule source de revenus devient de plus en plus aberrant. Et notre invité du jour, comme de nombreuses autres personnes de sa génération, l'a comprise. On les appelle communément les slasheurs ou les slasheuses. Et elle s'appelle Sonia Kusunu. Elle est assistante administrative, slash romancière, slash agro-businesswoman. Avec elle, dans la rubrique Elle, entre elles bien sûr, on explorera le thème suivant. Je cumule trois boulots en même temps. Comment je m'en sors avec succès? Et dans la deuxième et dernière rubrique, Elle active, on va s'intéresser à son profil, qui est Sonia Kusunu, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Vous découvrirez un peu plus son profil. Alors, vous vous installez, on est bien samedi, vous êtes bien dans Womanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Vous êtes sur Life Radio, la 107.7. A tout de suite.
Womanop, le rendez-vous du leadership féminin. Womanop, entre elles.
Bonsoir Sonia.
Bonsoir Edith.
Mais je suis ravie de te recevoir.
Merci.
Bienvenue, tu es à Life Radio et effectivement tu es surtout à Womanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires.
Okay.
Et on va explorer donc cette thématique avec toi. Je cumule trois boulots en même temps. Comment je m'en sors avec succès? Oui, j'y arrive. Et j'ai parlé de slasheuses et de slasheurs. Et ces personnes qui ont plus d'activités, en plus de leur activité de salarié, cumulent d'autres boulots. Je suis slasheuse. Il y a Edith Brou qui est entrepreneur dans la com digitale. Edith Brou qui est animatrice. Il y a Edith Brou également qui fait du coaching. Bref.
Ouais.
Et comme toi, je pratique plusieurs activités. Alors, tu peux te présenter à nos invités et parler de tes trois activités?
D'accord. Alors, bonsoir Edith, bonsoir chers auditeurs. Donc, moi, je me nomme à l'état civil Kusunu Afua Sonia.
Kusunu Afua Sonia. C'est de quelle région?
Je suis du Gontougo.
Du Gontougo.
Appelé le Zanzan autrefois.
Le Zanzan autrefois.
Oui.
Très intéressant.
Oui. Et maintenant, c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'accumule plusieurs boulots. Je suis à la base secrétaire administrative de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme.
Ok, la Lido, c'est ça?
Oui, la Lido. Voilà, et au-delà de ça, je suis romancière, écrivaine, et je fais maintenant de l'agriculture. Je me suis, depuis un moment, je me suis lancée dans l'agriculture.
Donc, tu es assistante administrative, donc tu es allée à l'école, on va dire, pour faire ce métier, d'une certaine manière ou pas. Ça, on va rentrer en profondeur là-dedans. Et ensuite, tu es romancière, tu écris des livres, tu écris des fictions.
Oui.
Et je crois que tu as deux romans à ton actif, c'est bien ça?
Effectivement, j'ai deux ouvrages à mon actif.
C'est quoi les titres des deux ouvrages?
Le premier, Le chemin de l'orpheline,
qui
avait été agréé par le ministère en 2018.
D'accord.
Et il y a Plus profondeur la nuit.
Oui.
Voilà, qui est sorti en 2018.
Et qui sont disponibles en librairie.
Qui sont disponibles en librairie.
Et enfin, tu es agropreneur, tu es dans le business de l'agriculture. Qu'est-ce que tu fais exactement dans le business de l'agriculture?
Bon, je fais la production de l'haricot vert.
De l'haricot vert?
Oui.
Et tu produis sur quelle superficie? Tu produis où exactement? Dans quelle région?
Dans ta région? Oui, dans ma région.
D'accord.
Dans la région du Gontougo. Et puis, je le fais en deux saisons par an.
Mm-hmm.
Et je produis un hectare par saison.
Un hectare par saison,
ça fait 2 hectares dans l'année.
Ok, d'accord. On va également développer ça parce que c'est très intéressant.
Okay.
Donc, tu as 3 casquettes, tu as 3 boulots.
Oui.
Le premier boulot dont on a parlé tout à l'heure, quand j'ai dit tu as suivi des études pour ça, tu as rémué de la tête. Dis-moi pourquoi.
Bon, à la base, je suis juriste de formation.
D'accord.
Voilà, je suis juriste de formation, j'ai une licence en droit privé.
Ok.
Et après ça, actuellement, je vais encore à l'école. Je suis
D'accord.
étudiante.
Ok.
Voilà, en master de gestion de projet de développement durable.
Donc, on va dire que l'assistante administrative, c'est une étape, c'est ça,
oui,
dans
c'est
ton
une
parcours.
Étape, oui.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard après cette parenthèse dans ton parcours?
Oui, en fait, après ça, je me spécialiser plus précisément en gestion de projet et développement durable.
Ok.
Voilà, surtout la gestion de projet.
Ah, donc moi, quand tu as dit juriste, je me disais que tu comptais devenir peut-être avocate ou
non.
Devenir juge.
Non, pas
ça
du tout.
Ça t'intéresse pas du
non.
tout, il n'y a pas d'argent là-bas. Okay.
Non, en fait, il n'y a pas l'argent, mais en fait, ça ne m'intéresse pas trop.
intéressant, très intéressant. Mmh. Et comment tu arrives à gérer ça? Je pense qu'il y a parmi nos auditeurs, nos auditrices, il y en a qui certainement également sont des slasheurs, mmh, qui cumulent plusieurs activités en même temps. Comment tu arrives à gérer ça et qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'est par besoin alimentaire pour pouvoir augmenter tes revenus que tu as commencé à regarder ailleurs en plus de ton activité de d'assistante administrative, donc de ton salaire d'assistante administrative, mm-hmm, tu t'es dit que je pourrais générer d'autres sources de revenus, mm, ou bien c'est d'abord par passion, mm, que tu t'es intéressée à l'écriture, mm, et à l'agriculture. Mm-hmm. Est-ce que c'était donc par passion ou bien c'était d'abord par besoin d'avoir d'autres sources de revenus?
Ouais.
Qu'est-ce qui est venu en premier?
D'abord, ce qui est venu en premier, c'est l'écriture,
oui,
en tant que littéraire. Je peux dire que mon désir d'être écrivaine aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui.
Oui.
Depuis l'enfance déjà, je rêvais d'être auteur aussi. Moi, avant, je pensais qu'être auteur, c'est un métier qu'on pouvait faire où tu étais payé par mois. Voilà. Bien que j'aimais vraiment l'écriture depuis le bas âge. Mm-hmm. Donc, déjà, dès le collège, déjà, j'avais commencé à faire mes premiers pas dans l'écriture.
Ok.
J'écrivais des nouvelles, des histoires que je proposais à mes professeurs. Et avec le temps, en fait, j'ai compris que non, c'est pas ce que je pense. Mais en réalité.
En fait, j'ai découvert que les romanciers, là, bon, en tout cas, en général, les romanciers, tous ceux qui écrivent des livres, ils gagnent pas forcément un salaire mensuel.
Non, ils gagnent pas un salaire mensuel. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est travail d'abord et puis lui, il vit en second plan.
Il faut vendre beaucoup de livres aussi.
Voilà, il faut vendre beaucoup de livres. Donc, j'ai pensé qu'il fallait me concentrer d'abord sur mes études.
Mm-hmm.
D'abord avec les parents, parce que quand les parents.
C'est eux qui payent, hein.
Voilà,
tu t'envoies à l'école, voilà, donc il faut les satisfaire.
Au départ, j'ai compris que voilà, il faudrait que je me concentre sur les études, que j'obtienne les diplômes. Voilà, au moins les parents sont contents et puis j'essaie de suivre mon chemin, quoi.
Exactement.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis allée à l'école, j'ai eu mon bac. D'abord, série scientifique.
C'est des grands écarts, quoi. Série scientifique.
Oui.
Donc, excellente en maths et en physique, alors.
Oui, j'ai fait série D, je suis un peu...
Tu es polyvalente.
Polyvalente, voilà, que ce soit en littérature, en maths, en physique et tout ça. Et après ça, bon, au moment où d'autres pensaient que j'allais faire les sciences et tout ça, ouais, voilà, je me retrouve en droit.
Ok.
J'ai fait des études en droit à l'Université Félix Fouet-Boigny où j'ai obtenu ma licence. Après ça, je sors en licence 2 déjà, c'est ouais, là que j'ai postulé pour mon premier roman.
D'accord.
Voilà, en 2017, il va être sorti, soit je balafonds. Et j'ai constaté qu'en fait, c'est pas ce que je pensais, mais j'écrivais d'abord parce que j'aimais l'écriture.
Tu écrivais par passion, oui.
Voilà, j'écris par passion. Donc, au-delà de mes études, j'étais écrivaine.
Mm-hmm.
Donc, je continue mon parcours en tant qu'écrivaine. J'essaie de faire la promotion de mes ouvrages et tout. Mais je partais à l'école.
Mm-hmm, exactement.
Donc, voilà. Donc, je partais à l'école, c'est aussi qu'il faut se concentrer sur les études.
Faut avoir une base, c'est voilà, très important.
Faut avoir une base, c'est très important parce que c'est la base aujourd'hui qui me permet de travailler en tant que secrétaire administrative à l'équivalent des droits de l'homme.
Et quand tu dis secrétaire administrative exactement, qu'est-ce que tu fais au quotidien, du matin au soir?
Oui, il faut gérer la Lido, il faut gérer toute la Lido entièrement, voilà, c'est pas facile.
Les coups de fil et tout.
Oui, il faut gérer le programme du président. Tout le personnel, en ce qui concerne les documents et tout.
Et de 8h à 18h, et tu trouves le temps de pouvoir te concentrer après sur tes prochaines œuvres?
Oui, bien sûr. Et tout est une histoire d'organisation, Edith.
On en revient à chaque fois à l'organisation.
Tout est une histoire d'organisation avec une équipe. Aujourd'hui, oui, je suis une slasheuse, c'est vrai. Mais c'est parce que derrière, il y a une équipe, en fait.
Donc, tu n'es pas seule. C'est-à-dire que tu es salariée, donc oui, à la Lido.
Oui.
Tu es l'assistante administrative, mm-hmm, qui gère, mm-hmm, le travail des autres.
Mm-hmm.
Et toi, à côté, tu as ton équipe,
oui,
qui gère en backup,
oui,
pour ton travail.
C'est ça.
Ils sont combien?
Ah bon, ils sont 4.
Quand même, hein? C'est une entreprise. C'est une entreprise,
oui,
ok.
4 au maximum. Il y en a 2 à l'intérieur.
Mm-hmm.
Et puis, ici, qui sont avec moi.
Donc là, maintenant, on s'intéresse au volet agriculture.
Ouais.
On a la Sonia qui écrit, qui fait de la fiction, qui est même dans le programme scolaire avec ses œuvres. Mmh. Et on a la Sonia qui porte ses bottes, mmh, et qui va dans sa plantation,
ouais,
pour cultiver son haricot. Comment ça démarre? À quel moment? Déjà, tu as quel âge, Sonia?
27.
27 ans. Ok, Sonia, j'ai compris. Donc, Sonia va dans son champ, dans le gant to go, là.
Oui.
Et elle s'occupe de ces 1 hectare de haricots, avec son équipe, bien sûr.
Oui, bien sûr.
À quel moment c'est venu le déclic de dire, OK, ouais, je fais ça, mais j'ai envie d'aller planter.
Oui, en fait, d'abord, ça a commencé quand j'étais sur la fac.
D'accord.
Quand j'ai vécu à l'université. Je dis que ça n'a jamais été rose, ce n'était pas facile à l'université.
Comment ça?
Donc, les difficultés à l'université. Parce qu'il y a des dépenses à faire, il y a des documents qu'il faut payer. Toi-même, en tant que femme, il faut te prendre en charge et tout ça. Bon, tes parents n'ont pas tout le temps les moyens pour t'envoyer, pour que tu sois à l'aise comme tu le souhaites. Donc, il fallait trouver des activités extra, en fait.
OK.
Pour pouvoir survenir aux besoins de l'université.
Donc là, maintenant, c'est le volet alimentaire.
Alimentaire.
Il était nécessaire de pouvoir avoir nos sources de revenus. Pour pouvoir t'occuper de tes études et les financer. Et t'occuper de toi-même.
Donc, puisque en ce moment, je ne pouvais pas aller au village pour pouvoir cultiver, je partais d'abord au Machugo.
D'accord.
Je fais des achats alimentaires. Je venais exposer à la fin.
OK. Donc, tu vendais. Tu achetais les légumes au marché gros et tu les revendais à la fac.
À la fac.
Ok, intéressant.
Donc, c'est comme ça que j'arrivais en fait à survenir un peu aux besoins en fait, au niveau de l'université.
Oui.
Donc après, quand je suis sortie de l'université et tout ça, je trouvais qu'il fallait que je me trouve quelque chose à faire d'abord avant de chercher à continuer les études. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai commencé à travailler, retourner au village voir les parents puisque déjà nous avons des parcelles nous appartiennent familiales déjà.
C'est bien le foncier d'avoir des parents qui ont des terres.
Voilà.
Ça aide beaucoup.
Voilà, ça aide beaucoup parce que ça t'empêche en fait d'acheter des parcelles et tout ça vraiment.
Y a des prix élevés, bien sûr, oui.
Il n'y a pas de moyens pour ça. Donc moi, je me rends au village. En ce moment, je travaillais déjà, j'avais déjà commencé.
Ok.
Parce que j'ai déjà travaillé à Wanep.
Oui.
Voilà, à Wanep. Les élections l'année dernière.
Exactement.
Un an et demi à Wanep. Donc, quand j'ai commencé là-bas après.
J'avais économisé un peu aussi.
Voilà, j'avais économisé un peu. Donc, je me rends au village, j'ai dit, bon, tiens, le salaire qu'on a par mois, ça ne suffit pas.
Oui.
Si toi, Abidjan, ça ne suffit pas.
Abidjan coûte cher. Abidjan coûte très cher. Et là, en plus, le carburant a augmenté. L'inflation nous tape là-dessus.
Oui, il faut pouvoir se prendre en charge, surtout en tant que femme.
Oui.
Ne pas compter.
Ne pas dépendre des hommes.
Ne pas dépendre des hommes. Voilà, il faut pouvoir se prendre en charge. Au moins, tu es encore plus à l'aise.
Oui.
Et ça évite des histoires.
Exactement. Voilà.
Et c'est comme ça que je suis retournée voir les parents pour dire bon, OK, moi, j'ai économisé. Voilà, voilà. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y a. Le ministre Adjumani qui faisait le tour pour voir un peu tout ce qu'il y a dans l'agriculture et tout ça. Et quelque part, ça m'a quand même attiré.
Ça t'a boosté.
Ça m'a boosté. J'ai dit, bon, tiens, ce qui veut dire qu'il y a des jeunes, en fait, qui cultivent, en fait, l'haricot sans problème.
C'est ça.
Et si le ministre Adjumani se déplace pour aller vers là-bas, c'est que quelque part, ça apporte quelque chose.
Et donc moi tu aussi, décides de te lancer dedans.
Je décide de me lancer.
Et tu as trouvé les semences de haricots.
Oui. J'ai trouvé la semence d'haricots. Parce que l'haricot, en fait, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup.
C'est ça.
J'adore cuisiner.
Tu es une bonne cuisinière.
Oui.
Oui.
J'adore cuisiner. J'aime beaucoup la cuisine. C'est comme ça que j'ai décidé, en fait, de me lancer dans l'agriculture.
Et donc, aujourd'hui, tes 1 hectare te produisent combien de... Je dirais en tonnes.
Oui,
hein?
en tonnes. Parce que l'haricot vert, c'est une culture qui est beaucoup capricieuse.
OK, pourquoi?
Parce qu'il faut, il y a des traitements particuliers en fait qu'il faut donner pour pouvoir avoir du temps en fait pour pouvoir te consacrer à ça.
C'est ça.
Parce que il y a des moments de pluie, il y a des moments où il ne pleut pas et ce sont des périodes qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître.
Il faut bien comprendre comment ça fonctionne.
Il faut bien comprendre comment ça fonctionne parce que quand tu n'arrives pas, tu risques de perdre tout en fait.
Et tu as démarré avec combien et tu as généré combien de bénéfices pour ta première exploitation?
Bon, pour ma première exploitation, en fait, sur les 1 hectare, j'ai dépensé 300 000. 100 000 sur les 1 hectare.
Oui.
Et après, production, parce que l'haricot vert, il produit en 45 jours.
45 jours, c'est le cycle, un cycle.
Voilà, c'est le cycle, un cycle.
Exactement.
En 45 jours.
Oui.
Et il y a 3 étapes de récolte.
Oui.
Voilà, et quand on produit, en fait, en tout, le cycle est bien suivi, si l'haricot a été bien traité et tout ça. À la fin, en fait, tu peux te retrouver avec 5 à 6 tonnes.
OK, 5 à 6 tonnes d'haricots.
6 tonnes d'haricots.
Oui. Et tu arrives facilement à les écouler?
Oui, oui, j'arrive à les écouler, surtout en période de compte saison.
C'est ça.
C'est encore plus facile.
Et tu les vends un peu plus cher.
Oui, encore plus
hors
cher.
Hors saison, ça, c'est ça.
En saison, voilà, il y a des moments aussi, surtout quand il pleut beaucoup, c'est difficile.
C'est difficile.
Tout le monde cultive l'haricot.
Exactement.
Et tout ça, voilà.
Bon, rapidement, avant de conclure et de passer à la seconde étape de cette émission, oui. Tu as fait combien de bénéfices? Tu as investi 300 000, tu as gagné combien?
Oui, 1 200 000.
1 200 000, donc on va dire que tu as fait un bénéfice de, ouh, je suis pas très bon en maths, 800 000. Mais la terre nourrit son homme.
Oui, effectivement.
La terre nourrit son homme, mm-hmm. Et comme on l'a vu, Sonia arrive à très bien gérer, bien sûr, avec son équipe. Ouais. C'est important d'avoir une bonne organisation, que ce soit à notre niveau et avec les personnes qui nous accompagnent, mm-hmm. de pouvoir être un bon slasher ou une bonne slasheuse et pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, mm-hmm. qui peuvent être des passions,
ouais.
qui peuvent être également partir de des formations qu'on a reçues à l'école, des métiers qu'on a envie de faire. Mm-hmm. Mais c'est possible de le faire et c'est possible de cumuler plusieurs activités, plusieurs boulots en même temps, qui bien sûr nous rapportent de l'argent et nous permettent d'être indépendants et épanouis. On part pour la prochaine partie de cette émission. On fait une petite pause en musique. À tout de suite.
Woman Up sur Life Radio. Woman Up, elle active.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission, elle active, et nous sommes toujours avec notre invitée du jour, Sonia Kosonou. Le prénom, c'est quoi?
Afoua,
c'est joli, ça me fait penser aussi au Ghana, mes frères ghanéens, ouais. Afoua, c'est beau. Moi, c'est Ya.
D'accord.
Mon second prénom, c'est Ya. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, parce que bon... Mm-hmm. J'ai essayé de faire court avec Edith Brou, ça passe plus vite et tout. Mais Ya, c'est mon prénom, Annie. Voilà. D'accord. Donc, on est voisins. On est voisines. Donc, Sonia.
Oui.
En général, dans cette deuxième partie, je demande à mes invités qui ils sont. C'est vrai que je t'ai présenté un peu. Mais moi, je veux aller en profondeur avec toi. Alors, en trois mots, si tu devais te définir, qu'est-ce que tu dirais?
Me définir?
Oui. Ton caractère, en trois mots, quand on pense à Sonia Kosonou, c'est-à-dire que si je tombe par exemple sur ton compagnon ou sur ta mère, qu'est-ce qu'elle dirait en trois mots pour te définir?
Ah, elle dirait que je suis beaucoup timide.
Tu sais quoi? Non, mais j'ai pas entendu. Tu es beaucoup timide. Timide.
Oui,
ça se voit, c'est vrai.
Oui, je suis beaucoup timide, mais bon, je fais l'effort en fait, surtout quand je suis avec des personnes, mm-hmm. je fais l'effort de sortir de moi-même.
C'est important.
Mais c'est bien un jour, ma maman, elle s'est levée un matin, elle a pris, je ne sais pas ce qu'il a pris, elle a pris le couvercle de la marmite là, mm-hmm. elle a fermé.
Elle dit,
tu vois ça? Elle dit, maman, c'est que tu es.
Elle est pas gentille.
C'est que tu es, parce que bon, en fait, j'aime pas trop...
En fait, tu aimes rester dans ta zone, en
voilà,
fait.
Voilà, merci.
Tu n'aimes pas embarrasser.
J'aime aussi. J'aime pas gêner. Quand je pense que je suis en train de t'embarrasser, même si tu n'oses pas le dire, mm-hmm. mais moi, je sais que je suis en train de t'embarrasser, je te laisse tranquille.
Oui, je suis un peu comme ça aussi. En fait, je suis timide, mais je suis une timide qui se soigne.
C'est ça.
Mais j'avoue que j'ai à peu près ce type de caractère aussi. J'aime pas gêner.
Oui,
en tout cas, quand je sens que je gêne, je m'en vais.
Oui, c'est comme ça, moi. Quand je pense que je gêne, je m'emmerde. Ok, moi, je reste dans mon petit coin.
Bon, mais bon, voilà. T'es pas resté dans ton petit coin. Tu allais faire ta plantation.
Oui. Oui, en fait, et puis aussi, je n'aime pas les histoires.
Oui.
Je fais rarement les histoires. C'est rare que vous allez entendre que Sonia Kosonou se dispute avec telle personne, bien des histoires avec telle personne.
Tu n'es pas colérique, tu es calme. Voilà. Tu gardes ton calme. Est-ce que tu gardes ton calme en toute situation?
Oui, en toute situation.
Okay. On ne va pas t'effrayer.
Quelle que soit la situation.
Ah bon, hein?
Oui. C'est pourquoi parfois j'effraie en fait d'autres personnes.
Pas ta sérénité.
Voilà, pas ma sérénité.
Tu déstabilises.
Quelle que soit la situation, je reste sérène.
Waouh, c'est fort ça. Là, tu peux bosser dans l'armée, hein? Tu peux être un colonel. Et le troisième trait de caractère de Sonia?
Bon. C'est ça, c'est un caractère. Je ne recule pas.
Oui.
Quand je prends une décision, je ne recule pas. Quand
tu es déterminée, tu es concentrée.
Voilà, parfois. Oui. C'est pourquoi quand je prends une décision, généralement mon compagnon me dit, bon, c'est même pas la peine d'essayer de te convaincre parce que...
Tu es têtue.
Je suis têtue, voilà.
Tu es têtue.
J'ai têtue. Je suis têtue. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais ou je ne le fais pas.
En fait, tant que tu n'as pas fini et quand ça te tient à cœur, que tu sais que tu peux le faire, Tant que tu t'es pas cogné la tête.
Cogné la tête, voilà, je ne recule pas.
On a beaucoup de traits en commun, en fait. C'est pareil pour moi. Hein. Tant que je ne me suis pas cogné la tête, ou si en tout cas je suis passionnée par ça, mais je le fais, quoi, jusqu'au bout.
Et hein. je vais jusqu'au bout. C'est parfois quand je cogne ma tête, je retourne, je vais vers mon compagnon, je dis, bon, ok.
Elle dit, je t'avais dit non.
il me dit, bon, je t'avais prévenu. Je dis, bon, ok, tu as raison.
Et parlons de ton compagnon, parce que je sais que je t'ai rencontré lors de la dégustation. À la boutique Pems Chocolat et je crois que ton compagnon, si je me trompe pas, il était avec toi, il t'accompagnait. Quelle place il représente dans ta vie, on va dire, et même dans cette vie de slasheuse, par exemple? Tu as parlé d'équipe, est-ce qu'il fait partie de cette équipe?
Ah non.
Ok, il est carrément à part de l'équipe.
Il est carrément à part, en fait, lui, il dit tout, je dis, moi, je ne connais rien d'entrepreneuriat, donc mais il est pour moi, en fait, un conseiller. Parce qu'en entrepreneuriat, vous savez, madame Edith, vous aussi, vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a des moments vraiment difficiles.
Les entrepreneurs sont solitaires.
Oui, c'est vraiment difficile. Moi, plus tard que la semaine dernière, j'ai perdu près de 4 tonnes d'haricots.
Non, oui. Comment?
Donc, en fait, la voiture a pris du temps.
Oui.
Tombée en panne, on n'a pas pu régler pendant 2 jours.
Ah, waouh.
Le temps d'arriver, bon,
tout voilà. Tout a pourri.
C'était un moment vraiment difficile.
Parce que 4 tonnes d'haricots, ça peut représenter combien de pertes? J'ai pas envie de réveiller, de remuer le couteau dans la plaie, mais là, 4 tonnes.
Oui, bon, parce que ça peut avoisiner près de 400 000, 500 000, en fonction du montant qui est fixé sur le marché.
Exactement, voilà. Exactement.
Et c'est vraiment pas été facile.
Oui.
Mais la première personne que j'ai appelée pour expliquer, c'était lui.
Oui.
Il a essayé de me parler, de me remonter et de me faire comprendre que bon, voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai choisi. Donc,
il y a des moments difficiles.
Il y a des obstacles. Mais c'est pas. Lorsqu'il y a des obstacles, il faut choisir d'abandonner, non.
Oui.
Au contraire, on devient encore plus fort et on cherche à faire mieux.
Et à s'améliorer.
Voilà, donc en fait, c'est un conseiller qui ne cherche vraiment pas à s'immiscer dans ma vie.
Il n'a pas voulu s'opposer parce que d'autres personnes auraient dit, mais tu es dans un secteur d'activité, tu as ton salaire, voilà, tu es tranquille avec ton salaire, pourquoi tu vas te compliquer la vie à vouloir faire deux ou trois autres activités alors que tu as ton salaire.
En fait, peut-être c'est que vous ne savez pas, même dans ma carrière d'écrivain, c'est lui, je peux dire, mon tout premier correcteur. Voilà, parce qu'il est très bon en français.
Sonia, donc, il fait partie de l'équipe. Tu peux pas me dire que je fais pas partie de l'équipe. Mais attends, c'est ton correcteur.
Oui, mon correcteur.
Lui, tu as deux business. Tu as la business de l'écriture et le business de l'agriculture.
Oui, l'agriculture, en fait, lui, il n'est pas entrepreneurial. Il n'est pas trop entrepreneur. Donc, lui, l'entrepreneuriat, c'est pas trop son truc. Mais il sait que moi, j'adore l'entrepreneuriat.
Oui.
Donc, il m'accompagne, en fait.
Il te comprend.
Voilà, il me comprend.
Et parlons de la littérature, des œuvres que tu écris. Tu peux nous parler en profondeur de ton premier ouvrage. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire, en fait?
En fait, Edith, je dis toujours que ma timidité, en fait, ne vient de loin.
Ok.
Parce que moi, j'ai fait le couvent.
J'ai pas bien entendu. Les auditeurs et auditrices, elle a fait le coup, quoi? Le couvent.
Oui, okay. J'ai fait le couvent.
Pas, je perds mes mots.
Oui, vas-y. En fait, moi, je suis rentrée tôt au couvent. Le couvent, c'est l'endroit où vivent les religieuses, en fait.
Ah, attends, tu voulais devenir ça? Voilà.
Bon, oui,
parce que j'étais trop timide, quoi.
Non, pas parce que je suis timide, mais la communion que j'ai avec mon Dieu, en fait.
C'était très fort.
C'était très fort et là-bas, je me sentais bien.
Oui, la paix intérieure.
J'adorais Dieu.
Attends, c'était à quel âge, ça? Tu es rentrée au couvent?
Déjà à 9 ans, j'étais déjà rentrée à 9 ans.
Donc, c'est quel couvent, si je ne suis pas indiscret?
Les sœurs réparatrices du Sacré-Cœur de Jésus.
Où ça?
Elles sont à la Riviera Faya.
Ah bon? Je ne savais même pas.
Oui. Okay. À la Riviera Faya. Donc, depuis toute petite, elles m'ont prise. Je suis restée avec elles. Pendant la rentrée, je suis avec les parents. Mais quand il y a les congés, les week-ends, les vacances, je suis là.
Donc, c'est toi qui as dit à ta mère, à 9 ans, à tes parents?
Mon papa surtout qui soutenait ça. Parce qu'il avait peur, en fait... tu sais, Edith, en fait, nous étions dans un milieu un peu pauvre.
Ok.
Comprenez. Donc, quand le vieux.
Oui, c'est le vieux père. Oui, c'est le vieux père.
Voilà. En fait, quand tu regardes un peu l'atmosphère dans laquelle on est, il me dit, bon, attends, tiens, si je ne fais pas ça,
on peut la détourner de son chemin.
Voilà. Donc, c'est comme ça que.
C'était une manière de te protéger.
De me protéger. Et là-bas, j'étais vraiment en sécurité.
Oui.
J'étais vraiment en sécurité. J'étais vraiment, la présence de Dieu était pour moi un canal, en fait.
Oui.
Et c'est comme ça que je suis restée au couvent. Et là-bas, on avait pour habitude les week-ends. On partait dans les petits villages. Je t'assure, Edith, que bien ici, il y a des endroits où les gens n'arrivent même pas à manger une fois par jour.
Non, ça, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle la mort subite.
Oui. Et c'est là-bas que moi, j'ai découvert cela.
Oui.
Les week-ends, on partait, on donnait la nourriture, des vêtements et tout ça. Donc, même parfois, quand les enfants n'ont pas de parents, il y a des enfants qui sont dans la rue,
qui dorment dehors.
Voilà, c'est ceux-là les récupéraient, les scolarisaient. Elles les aidaient, en fait, à avoir une avenir meilleure.
Wow.
Donc, c'est avec elles, en fait, que j'ai tout appris. Mm-hmm. Je suis restée là-bas jusqu'à quel âge? Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans.
Donc, carrément, 8 ans.
Oui. Donc, après, quand je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille à l'école, il faut que je réussisse ma vie.
Ce temps, tu suivais les cours?
Oui, je partais à l'école.
Ok, d'accord.
Il faut que je réussisse ma vie pour que demain, je puisse construire au moins une orphelinat, quelque part, un petit village, là, pour accueillir tous ces
enfants.
Pareil,
tu sois dans le service également aux autres.
Service également. C'était, en fait, ma vie. Mais au fur et à mesure, je constate que ça prend du temps. Oui. Je dis, bon, ok, ça prend du temps. Qu'est-ce que je peux faire à l'instant T pour contribuer, en fait, à ma manière? C'est comme ça que j'ai l'idée d'écrire mes mains venues, en fait.
Mm-hmm.
Puis j'ai commencé au lycée, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai dit, bon, ok, si j'ai écrit, peut-être une Edith Brou va l'acheter, mm-hmm. elle va lire. Quand elle va finir de lire, elle va passer le livre à une autre personne qui va lire.
Exactement.
L'autre va passer le livre à une autre personne qui va lire au fur et à mesure. Elle va prendre connaissance du contenu.
Mm.
C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Le titre « Le chemin de l'orpheline », parfois quand on prend le livre tout de suite, on pense aux orphelins qui ont perdu leur papa et leur maman.
Oui, le titre est évocateur, on se dit que c'est ça, littéralement.
Mais il n'y a pas que ça, Edith. Bon, il n'y a pas que ça. Un orphelin, il y a plusieurs façons d'orphelin. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont perdu leurs parents. Mais il y a des orphelins, par exemple, un enfant qui naît, qui ne reçoit pas de soutien de ses parents. C'est un orphelin.
Oui.
Une personne qui va à l'école, qu'on n'arrive pas à lui acheter les documents, qui est seule, se prend en charge. C'est un orphelin.
Bien sûr.
Il y a plusieurs types en fait, d'orphelins, mais on pense qu'il n'y a seulement que ceux qui ont perdu les parents qui sont orphelins. Pas que ça.
C'est-à-dire qu'on peut avoir même des parents, mais qui ne s'occupent pas de nous.
Voilà, pour qui on est inexistant. Oui. Ça aussi, ce sont des types d'orphelins qu'il faut s'en occuper. Donc, c'est tout ça que j'ai mis ensemble.
C'est une fiction.
Une fiction, un roman, en mm-hmm. fait. Hein. Un récit, on peut le dire ainsi.
Oui.
C'est un récit où un récit de jeunesse. Parce que moi, tous mes écrits, en fait, ce sont des livres de jeunesse.
Oui.
Voilà. La scolarisation, les valeurs, le conseil des parents, son chemin, comment réussir et tout ça, en fait. C'est un peu ça.
Et ce livre également a tapé dans l'œil du ministère de l'Éducation nationale.
Oui, en 2018-2019, tapé dans l'œil au ministère de l'Éducation nationale. Quand le programme des ouvrages scolaires est sorti, bon, le nom, j'étais vraiment contente. Et bon...
C'est que en fait tu n'avais même pas eu de relation déjà avec quelqu'un du ministère et tu as vu le titre de ton nom être waouh. C'est fort.
Et bon, malheureusement comme c'était pas prévu.
Mm-hmm.
Après on s'est pas entendu avec la maison d'édition, voilà, donc mais on compte vraiment relancer ça cette année.
OK.
Voilà, la rentrée prochaine. Pas cette rentrée mais
à la rentrée prochaine. Mais on est d'accord que tu es toujours sur la liste des programmes de l'éducation nationale, ou bien tu dois relancer encore?
Non, je dois relancer. Parce que chaque année, il y a une nouvelle liste qui sort.
Ah ben, on espère que cette fois-ci, tout va bien se passer avec la maison d'édition.
Oui.
On va même en parler, comment ça fonctionne avec la maison d'édition.
Mm-hmm.
Et que, voilà, que ta prochaine œuvre ou cette œuvre-là soit dans le programme scolaire.
Oui,
on te le souhaite.
C'est mon souhait.
Et tu as parlé de maison d'édition.
Oui.
Est-ce qu'ici, écrire un livre, sortir un roman, la paix, ça nourrit son homme?
Ça dépend. Mais en grande partie, non. En grande partie, non, parce qu'il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir vendre beaucoup d'ouvrages.
Et c'est combien par... On va essayer de prendre un intervalle. En moyenne, l'auteur, il est rémunéré à combien par œuvre? En moyenne, en pourcentage?
En fait,
le livre coûte, par exemple, 1000 francs, lui, il touche combien?
L'ouvrage... Normalement, il y a plusieurs façons d'édition. Hein. Il y a des éditions à compte d'auteur. Il y a des éditions à compte d'auteur et puis il y a des éditions à compte d'éditeur.
D'accord. Une explication?
Oui, explication, ça dit quand c'est à compte d'éditeur, c'est-à-dire que c'est la maison d'édition en fait qui prend tout en charge.
D'accord.
Et quand c'est comme ça, toi, l'auteur, peut-être tu n'as seulement que 10%.
10%?
10%, c'est...
Waouh, c'est très, très peu.
C'est très peu. Et bon, je dirais que maintenant, puisqu'il y a de nouvelles maisons d'édition qui naissent,
oui,
ça fait qu'il y a une amélioration en fait à ce niveau-là. Parce que il faut dire que les règles ne sont pas respectées au niveau des éditions en Côte d'Ivoire.
Comment ça?
Oui, parce que d'abord, le pourcentage que l'auteur perçoit, que ce soit à compte d'éditeur ou que ce soit à compte d'auteur, c'est vraiment minime.
Oui.
Ça ne peut pas permettre à l'auteur en fait, de survivre.
Bien sûr. Mais en fait, il faut qu'il y ait de la promo autour du livre. Il faut qu'il y ait de l'engouement. Il faut que les gens viennent acheter. Et il faut qu'il y ait un bon circuit de distribution.
En fait, qui doit se faire autour du travail. Et ça suscite des moyens.
Beaucoup de moyens. Donc, on va dire que pour l'instant, dans les slash de Sonia, la partie roman, la partie romancière, édition de livres, publication de livres, c'est surtout la passion.
Oui, c'est surtout la passion. J'adore écrire.
J'imagine, parce qu'en plus, quand tu es timide, tu arrives à t'éclater, à te lâcher dans les œuvres que tu rédiges et permettre à un grand nombre de pouvoir découvrir ton univers et de pouvoir découvrir les histoires que tu as racontées.
C'est ça.
On revient juste après cette petite pause.
Woman Up, 14h-15h sur Life Radio 107.7.
Nous sommes de retour et bien sûr, vous êtes dans Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et nous sommes toujours avec notre chère invitée, Sonia Osonu. À foi, j'adore prononcer ce prénom. Et avec elle, on parle de cette vie de slasheuse, cette vie où elle cumule ses passions, elle cumule également son activité entrepreneuriale avec son métier. Et on parlait d'édition, on parlait de livres, parce que c'est sa passion, écrire des livres, en plus de vendre du haricot, de produire du haricot, c'est sa passion, écrire des livres. Tu as parlé de ton premier ouvrage et des difficultés avec la maison d'édition.
Ouais.
Et là, tu sors un prochain ouvrage.
Oui.
Ok, tu peux nous en dire plus, le titre du livre et de quoi ça parle.
D'accord, le prochain livre, c'est... D'abord, le titre, c'est « Deux vies, deux identités ».
Une vie, deux identités. Ok.
Voilà, une vie en tant que personne. Deux identités en tant que deux cultures.
D'accord. Donne la trame de l'histoire, que je comprenne. c'est quelqu'un de bipolaire ou quoi?
Non, en fait, c'est... bref, je vais faire un truc bref. En fait, c'est l'histoire d'une fille, en fait, une fillette, en fait.
Oui.
Qui naît de deux familles différentes. Une maman française.
D'accord.
Et un papa ivoirien.
Ok.
Précisément, Yakuba.
Ah ou... Non, on arrive chez Yakuba.
Oui, c'est ça. On pratique l'excision.
Ah, chez Yakuba?
Oui, bon, disons, une famille africaine où on pratique l'excision.
Ok.
Donc, il y a la culture qui est là, la culture africaine.
Oui.
Et la culture française.
Mm-hmm.
Et cette dernière, elle a grandi, en fait, en France avant qu'ils viennent en Afrique.
Ok.
Avec les parents pour résider en Europe. Mais ici, tellement qu'on tient la tradition, les parents vont vouloir que cette famille-là, en fait, puisse... s'impliquer en ce qui concerne la tradition.
Parce que ça soumise à cette tradition également.
Donc, du coup, cette dernière va se retrouver en deux cultures.
En fait, il y aura un choc.
Il y aura un choc, voilà, un changement. Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter à cette culture-là? En Europe, elle avait l'habitude de porter tout ce qu'elle veut, de se mettre nue parfois.
Elle était libre.
De parler aux parents comme elle veut, parfois de contredire les parents, alors qu'on sait qu'en Afrique,
Pour respecter les aînés.
Donc, quand elle va venir en Europe, et quand elle va se rendre en Afrique, il faut lui apprendre tout cela. Il faut qu'elle sache que non, qu'elle ne doit pas contredire les aînés et tout ça, bien qu'elle ait l'habitude de le faire ailleurs. Mais ici, en Afrique, elle ne doit pas le faire.
Et est-ce que le personnage principal, donc la jeune dame, va réussir à s'adapter? Suspense.
Suspense.
On vous invite à acheter le livre.
Oui.
disponible dans toutes les librairies?
Oui, il sera disponible puisque ce n'est pas encore sur le marché pour l'instant. Il n'est pas encore sur le marché. Nous attendons ici 2 ou 3 mois au maximum. Mm-hmm. Nous espérons que ça sera sur le marché.
Et tu continues d'écrire? Est-ce que tu as une troisième œuvre en préparation?
Oui, j'ai 2 œuvres en préparation.
Ah, mais si tu n'arrêtes pas, en fait.
Non, je n'arrête pas. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des trucs à dire.
Et est-ce que ça t'intéresserait à un moment donné, en tout cas si on te fait appel ou si l'industrie te fait appel, d'écrire pour le cinéma?
Avec plaisir, parce que je l'ai déjà essayé avec un producteur en tant que scénariste.
Ok.
Je l'ai fait, ils ont aimé, et puis bon, voilà. Je dis, bon, c'est que je suis utile au moins.
Mais non, je pense, hein, parce que je pense que tu as ce potentiel-là de pouvoir, et je pense que ça te plaît également de pouvoir voir tes œuvres.
Oui, franchement.
Prendre vie à l'écran.
Honnêtement, la prochaine étape. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai toujours rêvé avec mon premier livre-là, vraiment pouvoir voir ça à l'écran un jour. Ça vraiment me fait plaisir. Parce que c'est un message, pas un seul des messages, en fait.
Oui.
Soit à l'intérieur, et je sais que ça vraiment. Au fur et à mesure que le temps passe, l'œuvre, en tout cas, a sa place.
Effectivement. Voilà. Et comment Sonia, en dehors de ses 3 activités, passe ses week-ends? Comment tu te divertis en général? Est-ce que tu as des week-ends? Parce que tu m'as dit en off que chaque 2 semaines.
Oui.
Tu vas dans le Grand Togo pour aller voir ton exploitation.
Je n'en ai même pas. Mais je fais l'effort depuis un moment. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il faut travailler, mais...
Est-ce que tu n'as pas peur de souffrir à un moment donné de burn-out? Je pense que tu connais le burn-out. Mm-hmm. Moi, je l'ai déjà vécu.
Oui.
Et c'est pas du tout rose.
Non.
Parce que ça touche à la santé mentale, ça touche également à la santé physique.
Oui.
Et c'est vrai qu'on se dit, oui, il faut pouvoir assurer des revenus, pouvoir également produire, également aussi se faire plaisir, mais peut-être à vouloir tout faire, on oublie en fait de prendre soin de soi.
Oui.
Est-ce que tu y as pensé?
Oui.
À certains moments.
Parce qu'à un moment donné, j'étais fatiguée.
Oui.
Physiquement, moralement, j'étais fatiguée. Je dis, bon, attends, je cours, c'est vrai, mais je le fais
souvent
pour qui?
Souvent, on court pour quoi?
Pour qui? Tout ça, j'étais assise, je dis, mais attends, j'ai pas le temps à me consacrer à ma famille, à mes enfants, et tout ça, bon, je travaille, mais je n'ai même pas d'approche avec ma famille.
Oui. Est-ce que tu les vois pas régulièrement?
Je t'assure, Edith, que j'ai tapé 1 an et demi, presque 2 ans sans voir mon papa.
Non.
Et un jour j'étais.
Il est dans le Grand Togo.
Oui, mon papa il est en service à Bouna actuellement.
Et tu vas régulièrement dans la zone là-bas?
Oui, je vais là-bas dans la zone, mais à force de tellement voyager, à force de tellement faire ces activités, un jour, dès que j'atterris au Togo, j'étais allée au Togo, dès que j'atterris de l'avion, mon portable sonne, je regarde, c'est mon papa. Alors qu'avant de quitter la Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas informé.
Oulala.
Et quand j'arrive, il m'appelle, je prends, il dit, tu es où? Je dis, papa, je suis au Togo. Il dit, bon, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai mise au monde.
Franchement, dis, c'est okay. Moi qui t'ai amené sur cette terre.
J'arrive en Côte d'Ivoire et je tourne, je cherche pas, je vois un jour. Je prends la voiture, je vais à Bandoukou. Quand j'arrive à Bengourou, il m'appelle, il dit, tu es où? Il dit, je suis en route, je suis en train de partir sur Bandoukou. Il dit, bon, ok. Moi, je suis au corridor à l'entrée de la Bengourou. Donc, arrête-toi, attends-moi là.
Et puis, on va partir ensemble.
On va se voir. Je suis arrêtée, je l'ai attendu. Il est venu, on s'est vu. 5 minutes, on a causé. Il était content. Chacun a pris sa route et puis on est passé.
Waouh, c'est chaud là. Ne pas avoir suffisamment de temps.
Oui, mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait que. C'est vrai, je travaille, mais il faut que j'aie du temps pour ma famille parce que ma famille, c'est mon point le plus sensible en fait.
Oui.
J'adore ma famille.
Oui.
Père, mère, mes frères, mes soeurs, c'est quelque chose que j'ai de plus précieux en fait. Même parfois.
La plus grande richesse, la famille.
La plus grande richesse que moi j'ai. J'adore ma famille. Je ne supporte pas qu'on fasse du mal à un membre de ma famille. Je suis prête à faire n'importe quoi, même l'impossible, pour que ma famille se sente à l'aise. Même si moi, je ne suis pas à l'aise.
Exactement.
Mais on ne touche pas à ma famille, en fait.
Et Sonia, tu as un enfant?
Oui.
D'à quel âge? La Sonia sourit.
Oui.
Je l'ai surprise avec la question.
Oui, j'ai un gosse. Bon, OK. Pas un seul.
Ah, OK. Oui. 2 gosses. Quel âge?
4 ans et 1 an.
Waouh. ils vont bien?
Ils vont très bien.
C'est deux garçons
ou... Oui, des garçons.
Ah, ok. Peut-être que t'en feras un troisième, parce que moi, j'ai trois garçons, si jamais.
Non, pour l'instant, c'est bon.
Non, là, j'ai tellement occupé, franchement.
Oui.
Et ça en se passe cas, bien avec eux. Tu arrives à les voir régulièrement, à passer du temps avec eux.
Oui. En fait, c'est pourquoi je dis merci, parce que au moins, j'ai eu un bon conjoint.
Oui.
Qui me comprend, qui prend le temps de rester avec les enfants, que ce soit ma maman aussi qui est là.
Oui, c'est l'édition.
Mais aussi ses petits-enfants et tout ça. Donc, du coup, je me sens un peu plus libérée, plus à l'aise pour mes activités.
Et je veux dire, comment il... c'est vrai, il y a la famille. Tu as parlé de ton père qui se plaignait, qui ne te voyait pas souvent. Ta mère, qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
Ah, cette dame-là. La fois dernière, je lui disais, bon, qu'est-ce que je... Même ma vie, en fait, je lui disais, même ma vie... ne suffirait pas, en fait. J'ai dit merci.
Bien sûr.
Parce que les moments les plus difficiles, les plus terribles, en fait, de ma vie, c'est la celle-là même, en fait, qui te donne sa poitrine, en fait, pour toi.
C'est une mère.
Quand ça ne va pas, elle est là. Et elle est là pour les moments difficiles. Comment te faire sortir, elle est là.
C'est elle qui a pris le couvercle de la...
Qui a tapé la marmite. Qui a tapé la marmite. C'est ce que tu es, parce que je ne parle pas. On ne sait pas ce que je fais. Qu'est-ce que je compte faire. Je ne dis rien. Même quand tu me provoques, je ne réponds pas. Donc, du coup, tu ne sais pas ce que je pense. Qu'est-ce que je veux faire. Rien. Mais bon, au-delà de... En tout cas, j'ai une très... bonne mère, franchement. Je dis merci à Dieu, en fait. Et ma prière, c'est qu'elle soit aussi vieille que ma grand-mère. Oui. Elle est décédée à 119 ans.
Elle est décédée à 119 ans?
Oui.
Attends, c'est énorme. Prière. On n'a jamais parlé dans le pays, parce que je pense qu'elle devait être la plus vieille, certainement. 119 ans. Waouh.
Donc, ma prière, c'est que ma maman, en fait, a pu atteindre cet âge-là, parce que je dis, si elle est là, en fait, je serai encore plus forte pour atteindre mes objectifs.
Et on te le souhaite.
Voilà, quant au vieux, lui, il me maîtrise mieux. Même, je me souviens, il dit juste pour rire, quand j'ai eu mon premier gourmet, quand le vieux m'a regardé, il dit, toi, tu fais une déception amoureuse.
Il sait te cerner, il te
comprend.
Voilà,
il me connaît, voilà.
En tout cas, chapeau.
Merci.
C'est vrai que c'est pas facile, hein,
pas facile.
Avoir une vie et de salarié, d'entrepreneur, et en même temps pouvoir avoir le temps. Avec 24 heures qui ne suffisent pas dans une journée, avoir le temps pour sa famille, pour ses amis, pour son conjoint et ses enfants, c'est un parcours du combattant.
Oui, les amis, eux, par exemple, je prends la peine de les appeler parce que je n'ai pas le temps pour les consacrer.
Exactement.
Je n'ai pas le temps pour aller les voir, pour discuter comme avant. Donc, au moins, les week-ends, je prends le temps, je les appelle, on pose, on rit.
Les WhatsApp et tout ça.
Voilà, pour qu'ils sachent au moins que je ne les ai pas oubliés.
C'est parce que Sonia est en train de bâtir un empire.
Voilà, c'est ça.
Et ils le comprennent.
Ils le comprennent.
En tout cas, merci. Juste un dernier mot. C'est vrai que la thématique, c'était parler de comment arriver à gérer ces trois ou quatre jobs qu'on cumule, ces trois activités qu'on cumule. Parce que notre génération, c'est un peu ça. Hein.
Ouais.
Les millennials, les plus de 30 ans, on cumule ces activités. Comment y arriver? Et tu as donné un peu, toi, ta méthode d'organisation et tout ça. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot, un message à toutes ces femmes qui sont dans la même situation que toi et qui, des fois, peut-être, ont envie de lâcher prise?
Ouais, moi, je dirais que n'est pas lâcher prise. Il faut y aller. Il faut s'organiser, avoir du temps, en fait. Il faut s'organiser au maximum, quand on le peut, suivre ses objectifs, en fait. Travailler comme on le peut pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille. De ne pas lâcher prise, parce que lâcher, c'est comme abandonner ses rêves, en fait. C'est abandonner ses rêves. Mais quand on abandonne ses rêves, on n'a plus rien.
Exactement.
On n'a plus rien, donc il faut continuer, il ne faut pas lâcher prise. Dans tout domaine d'activité, il y a des difficultés. Mais quand cette difficulté-là se présente, il faut pouvoir faire un mea culpa.
Mmh.
Et puis essayer de revenir encore plus fort.
Il faut accepter les échecs.
Voilà, il faut accepter les échecs.
Accepter que les échecs nous rendent forts.
Oui, il faut accepter les échecs. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans échec.
Exactement.
En fait. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans échec. Et moi, franchement, je salue toutes ces femmes-là qui ont plusieurs activités à la fois.
Chapeau à toutes ces dames qui cumulent toutes ces activités et qui s'en sortent.
Qui s'en sortent.
Merci, merci infiniment Sonia Kosonou, à fois de ta présence dans cette émission, de ce nouvel épisode de Woman Up. On
merci,
a énormément appris
ouais.
avec toi, sur ton parcours,
ouais.
sur tes activités et surtout les conseils que tu as donnés.
Merci,
c'est un exemple de vie, il y a beaucoup d'émotions.
Ouais.
On te sait timide, mais on voit que cette timidité est peut-être une force pour toi.
Ouais.
C'était un plaisir et vous, auditeurs, auditrices, merci de rester fidèles à cette émission chaque samedi de 14h à 15h. Vous êtes bien sur Life Radio, vous ne changez surtout pas de fréquence, vous êtes bien sur la 107.7. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.